Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour se énerver la suite. France Inter Plus 2, Léonard de Vinci cette semaine à l'occasion du 5e centenaire de la mort de l'artiste. Alors bientôt, une exposition au Louvre avec en sous-texte le réchauffement des relations entre l'Italie et la France qui viennent de signer un accord pour le prêt de 5 œuvres, ce qui met fin enfin à des mois de discussions et de tensions, mais c'est une autre histoire. La semaine dernière, réédition des carnets de Léonard de Vinci chez Gallimard. Et ce soir, eh bien, vous allez retrouver l'historien Marc Ferraud au micro de William Lémergie. C'était dans Fréquence Môme, le 25 octobre 1992, pour un gros plan sur l'enfance de Léonard de Vinci. Et puis ce sera au tour de Daniel Arras, formidable historien d'art, de revenir sur Léonard de Vinci face à Pierre Bouteiller en décembre 1997 dans l'émission Quoi qu'il en soit. Plus de Léonard de Vinci, soirée Sfumato sur France Inter.
Quelle est sa famille? Parce que c'est un enfant de l'amour. Son père était un notaire qui a eu une aventure très courte avec une jolie paysanne.
Ah.
Qui a été, bien sûr, laissée seule avec cet enfant. Et donc, lui a vécu à la campagne, d'abord, sans savoir qui était son père, jusqu'à ce que le grand-père recueille l'enfant.
Ah bon?
Et donc,
il a fait ce que son fils n'avait pas fait, alors.
Voilà. Il a donc vécu avec son grand-père et dans la famille de son grand-père, puis avec son père, mais à l'intérieur de la grande famille.
Ouais, ouais.
Puisque c'était des notables.
Mais il était reconnu comme tel quand il est... On disait c'est quand même le fils du notaire ou c'est le petit bâtard.
C'est le petit bâtard. Et ça, c'est le problème de toute l'enfance, de l'adolescence, de la vie de Léonard de Vinci. Bâtard. Et d'autant plus sensible à cette bâtardise qu'il connaît les 4 épouses successives de son père et que sa mère est au loin. Et sa mère, d'une certaine façon, c'est un peu pénible, il la méprise.
Pourquoi? Parce qu'elle s'est laissée séduire par
cette... Sans doute.
Ah, c'est peut-être ça.
Elle s'est laissée séduire et elle n'est pas reconnue. Dans les lettres, il l'appelle la Caterina. Alors que ses belles-mères, qui s'occupent de lui gentiment, dans une famille à renouvellement fréquent, d'ailleurs elles sont souvent jeunes,
oui.
Dernières surtout, ouais. Il les connaît très bien et alors ça lui donne une sorte d'horreur des femmes. Cette histoire de son origine l'a tellement marqué qu'il va être obsédé dès l'âge de 12-14 ans par les problèmes de la naissance, de l'embryon,
ah bon.
du caractère des gens qui ont connu leur mère, qui n'ont pas connu leur père, qui ont connu leur père.
Je dois dire, ça n'a rien de surprenant. Après tout, il réagit comme un enfant sensible, quoi.
Il réagit comme un enfant sensible. Seulement chez lui, c'est une sorte d'obsession morbide qui l'a poursuivi toute sa vie. D'ailleurs, Freud a écrit là-dessus, pas mal, je crois.
Et sur celle-là, sur son obsession.
Sur Léonard de Vinci, sur son obsession. Et il a vu dans le fait que Léonard de Vinci a laissé un nombre d'œuvres inachevées considérables, cet inachèvement, la transcription de ce manque, cette sorte d'impuissance, puis ensuite, etc. Je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est l'analyse que fait Freud des effets de cette angoisse, anxiété qu'il a eue toute son adolescence, toute son enfance. Et son père, alors, a commencé à s'occuper de lui parce que. Il a repéré chez ce garçonnet des dons de dessinateur.
Ah, déjà.
Et à l'époque, Florence est une ville. Enfin, nous sommes dans une région où l'art est la chose la plus partagée. C'est-à-dire que ce sont les petits bourgeois qui choisissent les monuments qui leur conviennent. Il y a une sorte de démocratie.
Oui, on vit dans l'art, avec l'art. C'est une denrée, j'allais dire, que l'on
et
côtoie.
Et lui, l'enfant, ne peut pas avoir la profession de son père parce qu'il est bâtard. Il ne peut pas être notaire.
Ah.
Il y a un certain nombre de professions, il y a une grande liberté de mœurs,
oui.
D'un certain point de vue, mais il y a des interdits,
d'accord.
Et lui ne peut pas être notaire, il ne peut pas entrer dans les premiers arts, comme on
mais
dit.
Mais c'est ça, il doit y avoir un conseil de l'ordre, on n'admet pas les bâtards.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il dessine bien,
il dessine bien.
On le met dans une école de...
Une école, non, mais on le met chez un maître.
Chez un maître.
Chez un maître, enfin, chez un maître artisan. Andrea de Verrocchio, qui lui trouve des dons, qui est un peintre, pas très connu, parce qu'il y a tellement... Nous sommes vers 1460-70, hein. C'est quand même très 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 ancien, c'est même pas Charles VIII,
ouais.
C'est une époque très ancienne de notre histoire, mais on est dans une cité 10 fois plus civilisée que notre cher pays.
Aujourd'hui. Là, non, mais c'est vrai qu'à l'époque, on ne se rend pas compte à quel point l'art était florissant. Quoi.
L'art est florissant en Italie et en France, on en est encore
en balbutie,
à guerroyer.
Quoique, jusqu'au jour, on va aller chez les Italiens et on va comprendre et on ramènera les choses.
On, ben, on y... Non, on y va pour ramener les choses.
Oui, c'est ça, on y va pour ça. Bon, alors le petit Leonardo s'avère être un enfant doué, mais bon...
Doué, absolument.
C'est ça.
Mais il subit le traumatisme d'une sorte de transplantation, puisqu'il a vécu d'abord avec sa mère à la campagne.
D'accord.
Et ensuite, il passe dans la civilisation urbaine,
ouais.
Et même pas noble, mais de bonne bourgeoisie.
Oui. Non, il vit plutôt bien, là, ça va, on s'occupe de lui.
Il n'a pas eu une enfance malheureuse, mais il a intériorisé ce problème.
Ah, mais ça ne m'étonne pas que c'est un client pour Sigoun, parce que là, effectivement, il a tout gardé en lui, cet enfant. Mmh. Et ça s'est exprimé assez vite dans son art, ça, où il a fallu attendre quand même l'âge mûr, oui.
Ça s'est exprimé par des recherches sur l'embryon, tout de suite.
Il a fait ça très tôt.
Ah oui, c'est quand même assez extraordinaire. Ah, un gosse qui s'interroge et qui se demande si l'embryon ressent les sentiments de la mère ou du père. Avec qui ne forme-t-il qu'un? Avec le père, se poser des questions comme ça à 13 ans, c'est...
Oui, mais à 13 ans, quand on pose une question comme ça aujourd'hui, on peut peut-être donner la réponse. À l'époque, on pose cette question à Florence, au 15e siècle. Tout le monde a dit, oui, il est fou ce gosse, ou alors on a... qu'il aille se promener ailleurs.
Qu'est-ce qu'on a dit ? Oui, mais on voyait qu'il avait une main qui était divine.
Progressivement, l'image, immortalisée par le prétendu autoportrait barbu de Turin, donc de ce grand sage qui saurait tout pénétrer, tous les secrets, la nature, etc., est enfin un peu terrifiant par le prestige de sa personne mystérieuse. Eh bien, ce grand sage est devenu un génie, enfin, il reste un génie, mais c'est un génie plus dans son temps. Et quand je dis qu'il a rajeuni, eh bien, c'est que, on pourrait dire aussi qu'il s'est rapproché, d'une certaine manière, de nous, dans la mesure où, là, la mise à distance qu'avait opéré le 19e romantique sur ce Léonard Faustien, eh bien, Léonard est devenu, dans le fond, quelqu'un qui a exercé son génie, car c'était inconsciemment un génie, mais dans des conditions très particulières et concrètes. Par exemple, on sait maintenant le cursus scolaire de Léonard, depuis l'âge de 6 ans, 7 ans, jusqu'au moment où il entre dans l'atelier de Verrocchio, le sculpteur florentin. Et là, on apprend beaucoup de choses, disons, qui nous sont tout à fait intéressantes, parce qu'en plus, on voit que les rythmes scolaires du 15e siècle n'étaient pas fondamentalement différents des rythmes scolaires du 20e.
Ce qui ne l'empêchait pas d'être par ailleurs autodidacte dans beaucoup de domaines.
Voilà, alors là aussi, par exemple, le fait que Léonard ne sache pas le latin, bon, bien, on s'avère, vous me direz, bon, on passe voir le latin, et alors? Ben oui, c'est pas bien grave. Ben, au 15e, c'est assez grave, surtout si on veut devenir un grand savant, car le latin est la langue savante de la fin du Moyen-Âge, elle restera encore pendant quelques temps, et ne pas savoir le latin, c'est ne pas pouvoir lire Euclide, par exemple, c'est pas pouvoir lire les traductions d'Aristote en latin, et donc, Léonard, qui avait la volonté de construire des systèmes, hein, curieusement, c'est un autodidacte, et comme beaucoup d'autodidactes aussi, il a la volonté de construire des systèmes, bien, ces systèmes ne peuvent pas se construire sans la fréquentation des grands textes systématique de la pensée de la fin du Moyen-Âge. Et à ce moment-là, pour Léonard, bon, eh bien, d'abord, il ne l'a pas lu, hein, il ne l'a pas vu, évidemment, mais il en a entendu causer. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie, et ça, Coiré l'avait déjà, Alexandre Coiré, historien des sciences, l'avait très bien dit, toute une part de la culture de la fin du Moyen-Âge, et de celle de Léonard en particulier, est orale. Bon, bien sûr, on le savait, mais le fait, par exemple, d'avoir vu les listes de mots latins que Léonard essaye d'apprendre, il fait des étymologies pour comprendre le rapport entre le toscan, l'italien, le latin, etc. Ça fait qu'on a un Léonard parfois pathétique, très émouvant, plus proche de nous, c'est le plus jeune, qui ne l'était tel qu'en fait le 19e l'avait figé. Or, ce qui est très frappant chez Léonard, c'est que s'il y a effectivement un développement, par exemple que ce soit au niveau de la peinture, le sfumato chez Léonard, tellement célèbre, arrive à partir d'un certain moment, les premières peintures, il n'y a pas de sfumato dans les premières peintures, s'il y a un progrès de la pensée scientifique, progrès non pas au sens de... il y a un développement, je veux dire, processus de la pensée scientifique. En même temps, l'imagination de Léonard fonctionne, comment dire, en faisant revenir des choses anciennes. Très frappant de voir, par exemple, que tel dessin, qui date, on va dire, de 1480, eh bien, ne donne pas de résultat tout de suite, mais donnera un résultat dans un projet avorté d'adoration, redisparaîtra et réapparaît magnifiquement 20 ans plus tard. Et donc, c'est ce mouvement simultané, conjoint, de toute une série de données dans la pensée de Léonard, qui m'a amené, si vous voulez, à sentir que cette notion de mouvement était au cœur, à la fois de sa vision du monde, de son art, et finalement des processus même de sa pensée.
Vous avez réussi à trouver quelques dessins inédits dans ce livre ?
Je crois que c'est l'une des premières fois, c'est la première fois qu'effectivement un plus vaste public que le public des spécialistes de Léonard aura affaire à des dessins qui jusqu'à présent étaient inconnus du grand public. Pas des spécialistes, on n'a pas découvert un nouvel Léonard. Je crois que le dernier Léonard découvert comme dessin, ça remonte maintenant à une dizaine, quinzaine d'années, un dessin très étrange d'ailleurs qui me permet d'aller vers la fin du livre que Carlo Pedretti a appelé l'ange incarné et qui représente une chose très étrange pour nous quand on pense au Léonard justement figé, hein, au Léonard sans sexualité freudien. Eh bien, c'est un dessin qui représente, enfin un peu comme le Saint-Jean-Baptiste qui est au Louvre, une sorte de, d'adolescence splendide. Mais la bizarrerie, c'est que cette adolescence splendide, eh bien, a un saint féminin, un des deux saints est manifestement un saint féminin qui nous fait face. Et Léonard, cette fois-ci, est descendu plus bas que le nombril du Saint-Jean-Baptiste, et au niveau du sexe, c'est un sexe masculin en érection, très étrange. Alors, Carlo Pedretti, très étrange dessin, d'autant plus qu'il n'est pas beau. Inconsciemment, il est de Léonard et il n'est pas beau. Et Carlo Pedretti, qui l'a découvert dans une collection allemande il y a maintenant une quinzaine d'années, l'a appelé l'ange incarné, hein, The Angel in the Flesh. Et ce dessin est très passionnant car en fait, il est un indice formidable sur l'intimité psychique de Léonard. Et non pas, alors, on sait que Léonard était homosexuel, mais au-delà de l'homosexualité, c'est le désir d'androgynie, de l'androgyne qui est chez lui, et androgyne qui est en fait par ailleurs un des grands thèmes de la culture de la Renaissance. Hein, l'androgyne de Platon et l'androgyne de la Bible, puisque dans la Bible, eh bien, Dieu, oh, la première, il y a deux versions de la création d'Adam, et dans la première, Dieu a créé l'homme et la femme en même temps. Il a créé l'homme et femme.
Je reviens à Léonard de Vinci, justement. Donc, comme vous le disiez, vous avez refusé la chronologie donc, pour thématiser votre ouvrage. Et c'est l'occasion de rappeler que c'était pas seulement c'était un architecte, c'était un urbaniste, c'était un inventeur, c'était un peintre, c'était aussi un musicien, on le verra dans un instant. Alors, question architecture et un urbaniste, il avait imaginé plein de choses, y compris la ville à deux niveaux.
Oui, oui, c'est une villa de niveau à Milan pour comment dire lutter contre les épidémies de peste et assainir la ville. Et effectivement, c'est une proposition qui bien sûr était utopique. Il ne s'agissait pas de dire qu'on allait construire un Milan à deux niveaux, mais effectivement, ce qui est remarquable dans la pratique de Léonard, quel que soit l'objet dont il s'occupe, c'est ce que Vasari a appelé la terribilità dei concetti, les concepts terribles, la terrible rigueur redoutable du concept, c'est-à-dire que rien ne résiste à la logique de l'esprit de Léonard, et puisque les villes sont encombrées de saleté, il compare ça à des étables pleines de chèvres, etc., parce qu'il y a ces comparaisons d'époque, hein, eh bien, nettoyons, donc mettons les chèvres en dessous, hein, et que les gentilshommes soient à l'air libre. Et effectivement, bon, bien, il y a eu, en fait, ce qu'il a vu l'idée, c'était le système de l'égout, simplement, et des souterrains. Et puis alors, il y a donc ces commandes précises auxquelles l'ingénieur, le grand ingénieur doit répondre, et puis il y a les autres dessins de Léonard ou d'autres dessins qui tantôt sont, et ça, c'est là aussi qu'on veut dire Léonard a rajeuni grâce au travail des historiens, eh bien, ce sont des dessins, par exemple, qui sont faits d'après des machines existantes, contemporaines. Hein, des dessins qu'on attribuait avant au génie de Léonard, on se rend compte maintenant que, en fait, c'était des machines qui existaient, par exemple, pour tondre la laine, pour fabriquer les fameux tissus du nord de Milan. Eh bien, ce qu'on croyait invention de Léonard était, en fait, version rhétorique persuasive d'une machine existante. Puis, troisième type de dessin, ça c'est Paolo Galuzzi qui l'a montré, qui sont des rêveries technologiques, qui peuvent être poussées, là, c'est pour ça que imagination, art et science sont, en fait, indissociables chez Léonard, peuvent être poussées jusqu'à la représentation convaincante. Dans le fond, en regardant l'aile volante de Léonard, on pourrait penser qu'elle marcherait. Mais lui savait bien qu'il y avait peu de chances qu'elle marche, puisque dans une des feuilles où il décrit sa machine, il dit « Bon, alors fais ton expérience au-dessus de tel lac et pense à mettre des outres pleines d'air, à t'accrocher des outres pleines d'air, comme ça si tu tombes. » Donc il savait bien que ça ne marcherait pas, mais la machine a l'air convaincante, on aurait envie de monter dedans.
Il serait plus rapide de voir ce qu'il n'a pas inventé, Léonard. Mmh.
Eh bien écoutez, ce qu'il n'a pas inventé, très difficile à dire, il n'a pas inventé le moteur à explosion, il n'a pas inventé le fil à couper le beurre, non plus, il n'a pas inventé, curieusement, l'idée que la Terre tournait autour du Soleil. C'est une des choses étranges, c'est que Léonard de Vinci n'est pas intéressé à l'astronomie, alors que la révolution scientifique va passer par l'astronomie, justement. C'est Copernic. Or, il est contemporain de Copernic. Car Copernic est à Rome en 1513, au moment où Léonard,
c'est un
jeune
terrien,
Copernic.
Voilà. Plus qu'un planétariste, oui.
Exactement. Ce qui l'intéresse sont les phénomènes. Ce qui l'intéresse sont les phénomènes, ce n'est pas la loi mathématique de l'univers. Pour lui, bon, elle est fascinante, mais il a une explication définitive aristotélicienne, c'est le premier moteur, primo mobile, et à ce moment-là, les fins dernières l'intéressent pas, c'est sur Terre que l'activité, l'aménagement dans le fond du monde pour l'homme l'intéresse.
Oui, c'est un homme qui, en plus, était un bon vivant. C'était un homme qui vivait son époque, qui vivait tous ses penchants.
Oui, c'est aussi pour ça qu'on veut dire qu'il a rajeuni. On sait maintenant par les textes que la réputation que Léonard a laissée derrière lui à Milan n'était certainement pas celle de quelqu'un qui aurait sacrifié le corps pour les élucubrations scientifiques.
Alors, on en vient à un dernier aspect que j'évoquais tout à l'heure, et ça va intéresser Jean-Pierre Vallès. C'était aussi un musicien. Il a été maître de chapelle. Il a écrit beaucoup. Mais il n'y a aucune trace, comme vous le rappelez dans votre livre, aucune trace. non, ses compositions.
Non, on a cherché, on a proposé d'attribuer certaines partitions à Léonard, mais ça n'a pas été convaincant. Effectivement, sa grande réputation est d'avoir été un improvisateur, comme on était à l'époque, un grand improvisateur musical. Et quand il va de Florence à Milan, justement en 1481, où il va devenir l'artiste officiel de Ludovic le Mort, eh bien, il est envoyé par Laurent de Médicis, il est envoyé à Ludovic le Mort pour lui présenter un luth, hein, qu'il avait lui-même fabriqué et chanté avec celui. Donc sa réputation est très grande comme chanteur, fabricant d'instruments de musique, faisant des recherches. Par exemple, il avait eu l'idée de ce qu'on appelle la flûte, mais là vous en saurez sûrement plus que moi, la flûte à glissando. C'est-à-dire le fait qu'au lieu que sur une flûte il y ait des trous permettant, hein, de jouer avec les doigts pour distinguer chaque note, eh bien comme Léonard est intéressé par le mouvement du son et non pas par la distinction de chaque son séparé l'un de l'autre, il a imaginé à des dessins une flûte où il y aurait non pas des trous successifs pour les notes, mais une sorte de longue fente sur laquelle le doigt pourrait glisser et donc avoir un son ressemblant à celui de la voix humaine, dit Léonard. Mmh. Donc il a eu des...
Vous suivez Jean-Pierre Vallès?
Tout à fait.
Il paraît que ça a été inventé, enfin imaginé aussi au 19e.
Enfin, il aurait pu inventer la clarinette qu'on est de temps en temps au début de la Rhapsody in Blue. En quelque
ça
sorte,
fait penser ça. À ce type d'instrument qu'on utilise d'ailleurs dans des compositions contemporaines, c'est-à-dire que c'est effectivement une flûte, mais au lieu qu'il y ait une fente comme dont vous parlez à l'instant, il y a une espèce de tirette qui fait qu'on peut avoir un son continu comme ça, qui produit un effet particulier, qui est utilisé notamment dans les comédies musicales ou des choses comme ça.
Tout à l'heure, vous allez nous dire qu'il a inventé les ondes Martenot.
Non, mais pour une comédie musicale, c'est normal, car la musique de Léonard est une musique pour théâtre.
Oui,
c'est pas du tout... Il y a là effectivement une modernité, disons, intéressante.
Il faut dire que c'était un homme complet. Je veux dire que c'était une époque où on n'était pas spécialiste, sauf spécialiste en tout genre, pour reprendre la fameuse expression de Pierre Dac. C'était un homme qui devait être curieux de tout, à la fois musicien, architecte, inventeur, peintre, sculpteur, etc.
Voilà, il était sous les...
On n'est pas dans la spécialisation de cette fin du XXe.
Absolument. Et l'artiste, surtout de cour, est à la fois peintre, architecte, sculpteur, ingénieur, etc. Disons que l'artiste moderne, au sens guillemets, qui a un ou deux arts à sa disposition, c'est sûr qu'il s'invente plutôt au XVIe, dans le fond, c'est Titien qui est le premier artiste à être exclusivement peintre. C'est à Venise que ça se passe, et pas à Florence. Il y a une tradition d'universalité qui est plus forte.
This dream I'm dreaming, won't you wake me up tonight? 'Cause this life I'm living doesn't really feel like mine. This strange dream never thought you would leave. I never thought I'd have to start again. Somebody wake me up. Don't you wish we were dreaming? Ask away.
for Dreaming, toute la mélancolie du Québécois Patrick Watson dans le Énervé la Suite France Inter, plus de Léonard de Vinci ce soir. Retour aux archives de la maison, on s'arrête le 21 mars 1955. On est sur la RTF, la radio nationale, et le journaliste Pierre Cipriot, qui présente l'émission Thèmes et Controverses, consacre son programme à la psychologie de Léonard de Vinci. Il reçoit la journaliste, comédienne, cinéaste et écrivaine Danielle Hunebelle et le journaliste essayiste Emmanuel Berle. Et puis, juste après, un grand moment de radio. Le 25 septembre 2005, Macha Béranger recevait l'écrivain Gonzague Saint-Brice dans son Allô Macha. Gonzague Saint-Brice, qui connaît bien Léonard de Vinci car il a grandi dans le château de famille du Clos Lucé à Amboise. Or, c'est dans ce même château qu'a vécu et qu'est mort Léonard de Vinci. Le duo Macha-Gonzague Saint-Brice est particulièrement croustillant.
Je ne suis pas tout à fait sûre que vous ayez raison de parler d'enfance agitée de Léonard. À mon sens, il a eu une des enfances les plus calmes qui soient. Évidemment, il était un petit bâtard, il voyait très peu sa mère, mais il a toujours vécu à la campagne. C'était un enfant livré à lui-même, qui faisait ce qu'il voulait. Il faisait des collections de papillons, des collections de serpents, de lézards, il regardait les feuilles mortes, il regardait les cyprès, il avait la chance de naître en Toscane dans un des paysages les plus beaux du monde. Il a appris non pas à aimer la nature, mais à faire partie de cette nature, comme s'il avait été un chiot. Et je pense que cette communion avec la nature l'a poursuivi toute sa vie. C'était un homme qui avait besoin de s'identifier au cosmos. Et toutes ses rêveries d'enfant l'ont prédisposé à cette identification. Je crois que s'il avait eu besoin d'une simplification, il n'aurait pas mieux pu la trouver que dans ce village de Toscane, où il a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans, jusqu'au moment où il est entré dans l'atelier de Verrocchio à Florence.
Et ce qui est assez troublant, c'est que ce regard porté par Léonard de Vinci sur la nature est beaucoup plus au fond un regard d'entomologiste ou un regard de biologiste qu'un regard de peintre.
Peut-être, mais pourtant ces peintures nous prouvent le contraire. Cette espèce de secret que Léonard nous a transmis, enfin à mon sens, ce que je vois dans la peinture de Léonard, c'est d'abord l'homme qui sait et qui montre qu'il sait à travers des figures humaines. Mais Léonard était un panthéiste.
Moi, qu'il a été toujours en effet à la recherche de sa propre enfance. Et à l'intérieur de cette enfance, de l'état où l'enfant se distingue assez mal du monde extérieur dans lequel il vit. Que là, il y a eu une union de Léonard et du paysage, comme pour tous les enfants, mais qu'elle a été chez lui très forte et qu'il a cherché à y revenir. Qu'elle lui a paru la vérité.
Je crois que tout enfant naît roi, le plus souvent sans royaume. Et Léonard a eu la chance de naître dans un immense royaume dont il s'est fait immédiatement le possesseur, vous ne croyez pas ?
Le monde animal dont nous parlions tout à l'heure n'est-il pas peut-être le monde le plus caractéristique de l'imagination de Léonard de Vinci, en ce sens qu'il a toujours chargé ses animaux de caractères fantastiques, que ce soit le cheval ou que ce soit l'oiseau ?
Je pense que c'est aussi une réaction assez naturelle à l'enfant.
Et ce ne serait pas un héritage du Moyen-Âge donc,
c'est très possible aussi. Il est tout de même dans un univers plein de monstres qui est en effet celui des cathédrales, celui de la religion, celui de la Toscane avec les vieux monstres qui viennent de l'Étrurie et puis les monstres chrétiens ajoutés par les bâtisseurs d'église.
Enfin, ce qui ressort de cet ensemble d'études, c'est que quand même presque toujours les tableaux de Léonard de Vinci ont été préparé par des enquêtes physiologiques extrêmement rigoureuses. Il arrivait même à ne plus faire de toile à force de regarder le mouvement des muscles et de décrire dans leurs détails. Alors comment expliquer ce mélange de fantastique chez Léonard et d'esprit réaliste ?
Léonard a dit que la peinture était pour lui l'essentiel, que la peinture était une chose mentale, qu'elle était infiniment supérieure à la sculpture parce qu'elle était moins matérielle que la sculpture. Il a considéré que l'image des choses par l'homme était l'équivalent de la création du monde par Dieu. L'homme étant une image de Dieu, fait des images du monde, comme Dieu étant Dieu, fait le monde. Eh bien ça, nous sommes en plein chez Maître Eckhart, avant que Dieu ait fait le monde, qu'est-ce qu'il était ? Il n'était pas Dieu. D'ailleurs, il a toujours dit combien il était attaché à l'image dans le miroir. Je crois que c'est assez simple. Je crois que Léonard de Vinci n'est pas un homme de la Renaissance et qui n'est pas un peintre moderne parce qu'il ne désire pas exprimer sa personne. La plupart de ses œuvres ont été inachevées. Si vous comparez avec Titien, avec Raphaël, avec les gens qui réussissent dans la Renaissance, eh ben, ça n'a aucun espèce de rapport.
On retrouve quand même Léonard dans presque tous les grands foyers artistiques de la Renaissance. Maintenant, c'est surtout dans l'ordre des idées qu'il me semble assez proche quand même de ces peintres qui ne se contentaient pas d'être des peintres, mais qui voulaient aussi être des philosophes, être des savants, et bloquer ainsi dans cette peinture l'ensemble du savoir et aboutir par des tableaux à une formule générale de l'univers, à une connaissance de l'univers, une connaissance qui soit une connaissance cosmologique, qui ne soit pas une connaissance noologique.
C'est un esprit méthodique, quoi. Il veut faire de la lumière et de l'obscurité, ben, il étudie la lumière, il fait un traité de la lumière, il veut représenter de l'eau, il fait un traité de l'eau. Parce que si vous ne savez pas du tout ce que c'est que de l'eau, vous ne pouvez pas peindre de l'eau.
Oui, mais là-dedans, derrière ce traité de la lumière et derrière tous ces traités sur l'optique, il y a un souci de révélation du monde.
Mais c'était un curieux infatigable. Il voulait toujours savoir le pourquoi des choses, de toutes les choses, les grandes et les petites. C'est en cela qu'il se distingue des hommes de son temps.
Ce sur quoi nous pourrions maintenant peut-être insister, c'est l'importance qu'il donne, la prééminence qu'il donne à la peinture sur tous les autres arts, ce qui est une idée tout à fait nouvelle.
Ah ben ça, je crois que c'est vraiment théologique chez lui. L'image de Dieu qu'est l'homme fait des images qui seront à deux dimensions, puisqu'il n'est qu'un reflet de Dieu, comme Dieu les fait à trois dimensions, puisqu'il est Dieu.
Et en même temps, cette peinture n'a pas besoin de renvoyer à de grands sujets ou à des figures héroïques pour s'affirmer. Il suffit qu'elle soit à l'école des phénomènes, qu'elle exprime les phénomènes dans leur complexité, qu'elle recompose tous ces éléments en une harmonie où s'exprime la beauté pour que la peinture soit justifiée.
Oui, seulement on n'en a jamais fini.
Seulement si nous, opposons Léonard à Michel-Ange, je crois que éclate justement cette opposition entre un génie héroïque, un homme qui traite la peinture ou la sculpture comme un art qui a quelque chose à dire et à exprimer, et Léonard de Vinci qui se contente d'accepter la peinture comme elle est, avec ce qu'elle peut faire, sans référence à un sujet.
Il a déclaré qu'il y avait une supériorité intrinsèque de la peinture sur la sculpture, et d'ailleurs de la peinture sur tous les autres arts. Il se trouve aussi tout de même que Dieu fait bien les choses, puisque cet homme qui croyait plus à la peinture qu'au reste, malgré son génie universel, c'est quand même en tant que peintre qui reste. Parce que c'est tout de même pas en tant que faiseur d'avion, vu que c'est tout de même moins réussi que Breguet.
Ni en tant qu'ingénieur,
ce n'est pas
ni
non
en
plus
tant
en tant que sculpteur, ni en tant... Voilà. Donc, il se trouve qu'il préférait la peinture et que la peinture l'a préféré.
La radiodiffusion télévision française vous a présenté Thème et controverse, revue radiophonique des idées et des lettres de Pierre Cipriot. La semaine prochaine, Rêve et poésie, à propos d'un ouvrage de Gaston Bachelard de l'Institut, publié aux éditions Presse universitaire de France, avec l'auteur et Audi Berthier.
Bonsoir Gonzague Saint-Brice.
Bonsoir.
Je suis contente de vous recevoir, j'aime bien vous recevoir parce que vous êtes un écrivain merveilleux, mais vous êtes aussi un conteur et on vous écouterait pendant des heures, voilà. Alors, on va parler de votre dernier livre qui est un grand succès, qui est un best-seller de l'été, ça s'appelle L'Enfant de Vinci, publié chez Grasset. Vous aimez bien, vous aviez pourtant dit que vous feriez plus d'autobiographie, hein. Et puis tout d'un coup, vous repartez sur l'enfant de l'histoire de Léonard de Vinci, parce que vous êtes quand même là, vous avez grandi dans l'ombre du grand Léonard de Vinci, au château du Clos Lucé, ce qui a été sa dernière demeure.
Tout à fait.
Donc, alors, cet enfant de Vinci...
Et en fait, si vous voulez, beaucoup de gens se sont dit, ça y est, il se met à écrire sur Léonard de Vinci, parce qu'il y a eu le succès prodigieux du Da Vinci Code. Oui. Mais je ne suis pas un opportuniste, et en plus, ce n'est pas de ma faute, mais c'est comme ça.
C'est pas de votre faute.
Le génie était dans la chambre d'hôte de la demeure familiale.
Du Clos Lucé.
Donc j'ai été élevé dans la maison où Léonard de Vinci est mort. C'est une maison que mon père a ouvert au public dans les années 50.
Oui.
Il en a fait tout de suite un château du futur et pas un château du passé.
Oui.
Ça veut dire qu'il y a toutes les inventions.
Les maquettes.
Des futuristes, absolument. Oui. Les maquettes.
Extraordinaires.
Les premières inventions de Léonard, premier hélico,
Est-ce que vous savez des secrets, vous, plus que les autres, puisque, bon, Léonard de Vinci est très à la mode avec le Da Vinci Code, comme on vient de le dire. Est-ce que, bon, vous êtes c'est une folie planétaire, mondiale. Vous en savez plus que les autres? Est-ce
oui.
que vous révélez plus de choses dans votre livre?
Absolument. Ah, vous savez, comme disait Flaubert, chacun de nous a dans le cœur une chambre royale. Je l'ai murée, mais elle n'est pas détruite.
Oui.
Eh bien, le château du Clos-Lucé, qui est ouvert au public, ce n'est pas, je m'en suis rendu compte, un château de briques et de pierres, quoi qu'il soit de briques roses et de pierres blanches.
Oui.
C'est un château de pierres philosophales. Parce que je ne peux pas penser qu'un homme d'une si grande intelligence, d'une telle générosité de sa connaissance, oui. Léonard de Vinci, n'ait laissé des secrets au Clos-Lucé. Et quand j'étais enfant, les gens qui habitaient ce château, qui sont les personnages de ce roman.
Oui, oui, oui.
J'ai voulu appeler ce livre roman pour dire tout ce qui est vrai.
Une autofiction.
Eh bien, ces gens m'ont dit, oui. Toi, quand j'ai eu 13 ans, d'abord, mon père m'a convoqué dans la salle des gardes du Clos-Lucé.
Oui.
Et il m'a dit, très, très digne, il m'a dit, maintenant tu as 13 ans. C'est l'âge de la robe prétexte chez les Romains. C'est l'âge de la majorité chez les rois de France. Je t'autorise, à partir d'aujourd'hui, à aller dormir dans le lit de Léonard. Ça te donnera des idées.
Ça te donnera
Mais
des idées.
Il n'y avait
idées,
pas que mon père. Il y avait les gens qui vivaient autour. Oui. Il y avait une vieille demoiselle, Mademoiselle Vogt. Il y avait un chanteur d'opéra qui avait été gazé pendant la guerre de 14, qui avait perdu sa voix. Et c'est lui qui m'a dit un jour, viens, je te parlerai de la femme du gendarme. Et la femme du gendarme, c'est Mona Lisa, car son mari était le chef des gendarmes de Florence. Et elle est la troisième épouse de Bartolomeo di Zambini di Giocondo, un homme rogue, rustre, riche, vieux, barbu, jaloux, et qui est le commandant de la gendarmerie de Florence.
Alors, vous appelez l'enfant de Vinci, mais vous n'avez aucune filiation de descendance.
Non, non, je n'ai pas appelé mon livre le fils de Vinci, mais l'enfant de Vinci. Mmh. Ce n'est pas l'enfant de Léonard de Vinci, c'est un enfant qui a été élevé dans la lumière de Vinci.
Oui.
« Regarde la lumière, dit Vinci, et admire sa beauté. Ce que tu as vu d'abord n'est plus. Ce que tu verras ensuite n'est pas encore. »
Oui. Mais vous avez toujours eu ce privilège, Gonzague Saint-Brice, de vivre en décalage horaire un petit peu avec l'histoire. Hein, parce que vous avez joué avec vos frères dans des endroits où François Ier s'amusait. Enfin, c'est assez hallucinant, votre vie depuis le départ.
Oui.
Vous êtes entouré de personnages historiques.
Il faut dire qu'on était une famille nombreuse.
Oui.
Et que quand mon père a décidé d'ouvrir le château au public, on était en fait dans les lits à baldaquin le long de la visite. Donc on avait intérêt à se lever tôt, avant 9h du matin, pour ne pas apparaître ébouriffé devant les visiteurs. Et notre mère nous a vraiment élevés comme si le passé n'était pas disparu.
Ouais.
Elle nous disait, là, quand on jouait avec nos arcs, nos flèches,
ouais.
Elle nous disait mais que François Ier jouait avec les mêmes jouets, les mêmes armes. Et au fond, je me suis rendu compte que, comme l'avait dit Anatole France, l'histoire n'est pas une science, mais un art. On n'y réussit que par l'imagination, dit Anatole France. Et voyez-vous,
par exemple, vous étiez dans le passé, dans la vie quotidienne.
Exactement.
Dans le passé présent, en fait.
Et par exemple, un jour, la vieille demoiselle qui habitait au château du Clos-Lucé, Mademoiselle Vogt, m'emmène assister à la coupe des grands arbres dans la forêt d'Amboise. Et donc, j'étais très impressionné. Il y avait les gardes forestiers avec leurs costumes en velours côtelé, leur casquette avec le cerf doré sur la casquette. Et nous assistons à la coupe des grands arbres, des arbres de 600 ans, avec la scie électrique qui était nouvelle à l'époque, oui. Hein, c'était dans les années 50, et la scie commence à entamer l'écorce, et la scie rentre dans le tronc, et tout d'un coup, la scie hurle au milieu de l'arbre. Qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle vient de toucher du métal. Qu'est-ce que c'est?
Du métal.
C'est un chevalier en armure au milieu d'un arbre de 600 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a 600 ans, un homme poursuivi à cheval voit qu'il faut sauver sa peau. Il cavalcade, tout d'un coup, il arrive dans la forêt d'Amboise, il a les assaillants qui sont derrière lui,
oui, oui.
Il prend de l'avance, et tout d'un coup, il voit un grand arbre creux. Il se dit, ça va sauver ma vie. Il monte dans l'arbre, il arrête son cheval, il monte dans l'arbre creux, il botte les fesses de son cheval qui continue à cavalcader, et là, quand il s'est glissé dans l'arbre creux, il entend les assaillants qui passent au grand galop. Ça y est, par la ruse, il a sauvé sa vie. Mais quand il veut sortir du tronc d'arbre, impossible. Et ce n'est que 600 ans plus tard que, grâce à la scie électrique, on entendra le son du métal de la mémoire. Nous pensons que Léonard a fait beaucoup dans les trois dernières années de sa vie. Par exemple, il a signé le fameux Codex Atlanticus, qu'il a signé au Palazzo del Clou. Il s'est intéressé à tout ce qui était la mer et la force des eaux.
Oui.
C'est extraordinaire de penser, est-ce que qu'il écrit quelque part « Parler avec le Génois ». Alors le Génois, ou c'est Christophe Colomb, ou c'est Andrea Doria. En tout cas, ce qui est extraordinaire dans Léonard, c'est qu'il travaille pour des gens qui sont très lointains de lui et qui sont de la même époque. Quand Christophe Colomb construit la première ville au-delà des mers, du côté des Bahamas, cette ville s'appelle Isabella. Et qui a fait les plans urbanistiques de cette ville? Qui les a signés? Léonard de Vinci. Quand le sultan Bazalgette, à Istanbul aujourd'hui, jette un pont immense sur le Bosphore, qui a dessiné ce pont? C'est Léonard de Vinci. Car vous savez qu'il y a une alliance, bien sûr, entre Soliman le Magnifique et François Ier. Et donc, si vous voulez, on sait que Léonard a fait énormément de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre le sens de ses peintures ou de ses fresques. Par exemple, je voudrais vous raconter une histoire sur la fresque de la Seine.
Ah oui.
Parce que ça, évidemment, ça intrigue tout le monde. Cette Seine, elle est commandée à Léonard de Vinci par le duc de Milan, Ludovic Sforza. Et dans le couvent de Sainte-Marie des Grâces, il y a un grand mur. Et là, Sforza lui dit à Léonard, tu vas faire la scène la plus extraordinaire, quand le Christ est trahi. 12 apôtres, traîtres compris. Et donc, Léonard commence à travailler, mais vous le connaissez, il a toujours d'autres idées, d'autres travaux. Il oublie, il regarde le mur pendant des heures sans rien faire.
Oui.
Et au bout de 2 mois, 3 mois, il n'a toujours rien fait. Alors il est convoqué par Sforza qui lui dit « Arrête, pareil, tu ne fais rien, les moines sont contre toi. » Et Léonard répond « Attendez, il faut que je trouve un mec assez beau pour faire le Christ. »
Oui.
Et finalement, il trouve le type assez beau pour faire le Christ. Ah, quelques mois passent, encore des mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et il n'a pas terminé la fresque de la Seine, Léonard de Vinci. Alors Ludovic Sforza le convoque et lui dit « Tu te fous de ma gueule, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, Léonard lui dit la vérité. « Maintenant, il faut que je trouve un type assez laid. »
Pour faire Judas.
Pour faire Judas. Et croyez-moi, je ne perds pas mon temps. Je vais dans les bas-fonds de la ville,
oui,
dans les bordels près du Borgo, dans les auberges pleines de vin et de vice. Et un jour, oui, il trouve le type, le casting d'enfer, la sale gueule.
Le casting d'enfer. La
bouche de travers, l'air tordu, l'œil torve.
Oui.
Et il lui dit, toi, est-ce que tu veux bien poser pour moi? Le type le regarde, sourit et dit, ah ouais, je te reconnais. T'es Léonard de Vinci, toi. Ça dépend, c'est pour faire quoi, lui dit-il. Et Léonard lui dit, c'est pour faire Judas, mais je te donnerai de l'argent. Et le type a un mouvement de recul, il dit, ah non, pas ça, ne me demande pas de faire Judas. Pourquoi, dit Léonard. Et là, le type répond, parce que c'est moi à qui, il y a 2 ans, tu as demandé de faire le Christ. Au fond, c'est vrai que c'était la formation de ma vie que ce Léonard de Vinci. Quand j'étais petit, on disait le renard de Vinci, on savait pas qui c'était. Mais quand on est devenu un peu plus grand, on a compris qu'on était dans la maison du plus grand génie de tous les temps, l'homme le plus connu après le Christ et Mahomet.
Oui, et le plus connu après le Christ. Ça me frappe, ça. Vous avez dit ça un jour.
Oui, oui. Et en grandissant, au fond, moi j'ai été conduit, parce que comme j'étais un autodidacte et un gaucher, j'étais ravi d'avoir dans la maison un autodidacte et un grand gaucher. Et donc, au
c'est
fond,
rassurant.
Cet homme était vraiment le formateur idéal, le tuteur souple de ma vie. Et les conseils qu'il donne pour vivre, pour se former soi-même, sont extraordinaires. Je cherchais et je trouvais dans le culte du grand peintre et dans l'accompagnement familier de son œuvre cette affection privilégiée qui me manquait, ce lien libre et original, ce voisinage intemporel, cette adoption rêvée et cette paternité fabuleuse. Mais je crois que...
En fait, avant, vous n'étiez pas prêt à Gonzague Saint-Brice à le faire, parce que tu étais trop jeune, si j'ose dire.
Absolument.
Pas que 50 ans soit vieux, mais il n'y avait pas une maturité suffisante pour parler de l'enfance.
Absolument. Et donc, on voit quand on est au Clos Lucé, On voit Léonard qui chauffe ses mains géniales auprès du feu avec sa cuisinière Mathurine, lui qui a eu cette chance inouïe, parce que plus personne ne voulait de lui en Italie, il ne finissait jamais ses œuvres. Il a traversé les Alpes à dos de mulet, avec dans une sacoche en cuir, la Sainte-Anne, le Saint-Jean-Baptiste, la Joconde, invité par un roi de 20 ans, François Ier, et il avait toujours attaché à sa ceinture un carnet de cuir sur lequel il dessinait tout ce qu'il voit, les chutes d'eau, les cataractes, la fonte des neiges. Et quand il arrive à Amboise, il monte dans le château royal d'Amboise, il s'assoit sur une pierre en haut de la tour Heurtaux. Et là, déjà, là, il y a le soleil. Il compare la lumière de la Touraine à celle de la Toscane. Et il entend déjà parler italien autour de lui. Pourquoi? Car les jardinistes italiens sont là, les orfèvres italiens, les tailleurs de pierre italiens sont là. Et là, le roi lui dit, tu dois faire deux choses pour moi. Un château fabuleux, une fête extraordinaire. Le roi lui donne d'abord une pension de 700 écus d'or, 50 000 balles par mois. Et il lui dit, fais ce que c'est tu veux. Et il lui donne le petit château du Clos Lucé, tu seras chez toi. Où habitaient avant les femmes, Louise de Savoie, Anne de Bretagne, Marguerite de Navarre, la sœur du roi. Et Léonard est tranquille. Non, pas tout à fait tranquille, parce que le roi lui dit, tu dois faire deux choses pour moi, un château fabuleux, une fête extraordinaire.
Une fête extraordinaire.
Et Léonard dessine un château qui doit avoir lieu à Romorantin. Toutes les allées sont en eau comme à Venise, les portes s'ouvrent devant vous par un système de balancier comme dans les aéroports, et il y a la téléphonie entre les appartements. On s'ouvre dans un cornet, on parle, on écoute, on parle, on écoute. Ouais. Mais la malaria attaque les ouvriers dans les marais malsains de la Sologne, et le château disparaît.
N'existe pas.
Et alors là, il faut consoler le roi. Le roi est un homme brutal, hein, qui a dans les fossés du château d'Amboise une collection de bêtes féroces, des lions, des tigres, des guépards, des léopards.
François Ier.
Et puis, il adore les femmes, donc Léonard fait une fête pour lui au Clos Lucé, au-dessus des invités, un grand dais bleu sur lequel sont dessinées toutes les étoiles de la cosmogonie. Et le roi arrive avec son pourpoint immaculé, couvert de pierreries, les danses, les pavanes, tout va bien, c'est formidable. Mais tout d'un coup, un lion, sans doute échappé des fossés d'Amboise, s'avance vers la cour. Panique généralisée, les gardes se mettent devant le roi, sortent leurs couteaux de chasse pour attendre le lion. Ils ne sont pas tellement rassurés, ils ne sont pas habitués à se battre avec un lion.
Oui, plutôt rare en Amboise.
Le roi, très frimeur, regarde les gardes, regarde les femmes. Et quand le lion est à deux pas du roi, le roi écarte les gardes, prend son couteau de chasse, attend seul le lion. Le lion avance vers le roi, lève sa lourde gueule et darde le roi avec ses yeux dorés. Et là, il se passe une chose extraordinaire. Au moment où le lion va se jeter sur le roi et où le roi va le frapper avec son couteau, le lion éclate en deux. De son dos jaillit une gerbe de fleurs de lys qui tombe aux pieds du roi. C'était un automate, Léonard de Vinci.
Ah, c'était un automate, Léonard de Vinci.
C'était le Énervé France Inter plus de Léonard de Vinci, premier épisode. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, Vinci et sa Joconde, un sujet inépuisable au sourire indéfinissable. Je vous souhaite le bonsoir.